Alors c'est fort intéressant d'avoir quelques enfants qui se préparent à la première communion quand toute notre journée est basée sur la question de l'appel. Depuis ce matin, nous sommes en pèlerinage pour prier pour les vocations. Vocation, c'est-à-dire l'appel de Dieu. Et vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes en train de répondre à un appel de Dieu. Oui, alors il y a la catéchiste qui dit, oui, c'est peut-être un peu voulu par les parents, je ne sais pas s'ils en ont bien conscience. Et tout à fait. Des fois, et c'est pour ça que je trouve que c'est super, parce que on n'a pas toujours conscience de répondre à l'appel de Dieu. Des fois, on fait des choses comme ça. Ce que je vous suggère, les enfants, puisque vous vous préparez à recevoir la première communion, c'est de dire, waouh, je vais recevoir Jésus au fond de moi. C'est pas rien, ça, vous savez. C'est un très, très grand mystère. Et plus on avance en âge, et plus on découvre que ce mystère est très, très grand. Et que c'est sans cesse des nouveaux appels de Dieu. Vous pouvez découvrir que tous ceux qui sont en blanc ici, un jour, nous avons répondu à un appel particulier, un chemin particulier. Mais vous pouvez vous dire aussi que tous ceux qui sont là, qui n'ont pas l'aube blanche là, ils ont aussi répondu à un appel particulier. Dieu n'arrête pas d'appeler. Et nous avons écouté des textes de Saint Vincent. L'un d'entre eux dit « Comment un homme peut-il être heureux? C'est en vivant pleinement la volonté de Dieu. Plus tu fais la volonté de Dieu, plus tu te découvres toi-même. Et plus tu es rayonnant. Et plus tu es heureux. » La question, c'est juste, est-ce que je suis à la recherche de l'écoute, de la parole de Dieu, de l'appel de Dieu? Notre évêque vient de dire, nous fêtons les 400 ans du pèlerinage de Saint-Vincent de Paul ici à Buglose. Mais figurez-vous qu'on a un autre 400e anniversaire à fêter demain, car en 1623, le 4 juin, c'est-à-dire demain, il y a une femme qui a vécu quelque chose de très très fort. C'était en 1623, le 4 juin, la Pentecôte. Et c'était une femme qui était avec grand doute, beaucoup de doute au fond d'elle. Elle ne savait pas si vraiment Dieu était là, la résurrection, tout ça. Elle se posait tout un tas de questions. Elle était dans le noir, dans les ténèbres. Je suis en train de vous parler de Louise de Marillac. Elle a une vie qui n'a pas bien démarré. On ne sait pas qui est sa maman. C'est ce qu'on appelle un enfant illégitime, pas bien reconnu dans la famille. Pas bien accueilli. On l'a mis un peu à l'écart. Mais elle, au fond d'elle, elle a entendu déjà, quand elle était petite, un appel. Elle avait envie d'être religieuse. Ah, mais voilà qu'elle a une santé fragile et que du coup, les sœurs ne veulent pas d'elle. Elles veulent que des femmes qui soient en bonne santé. Bon, je pensais pourtant que c'était la volonté de Dieu. Hein. Continue à avancer. Après, bon, lui arrive plein d'autres choses, je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui. À un moment, on la marie, on ne lui a pas demandé son autorisation, elle est mariée, elle a un enfant, bon, elle est un petit peu heureuse, mais son mari tombe malade, il devient plus que grincheux. C'est dur. Elle se demande si elle n'a pas loupé sa vocation, si elle n'aurait pas vraiment dû être vraiment religieuse. Voilà, et elle avait tout ça depuis le temps de l'Ascension, donc c'est 10 jours avant Pentecôte, et vraiment dans les ténèbres avec tout ça. Et un moment, à Pentecôte, alors qu'elle était en train de méditer, grande lumière, une lumière qui donne une très grande paix. Cette fois-ci, elle sait que ce qu'elle perçoit comme horizon sur son propre chemin, ça vient vraiment de Dieu. Quelle libération! Et pourtant, ce qu'elle a perçu, c'était loin d'être compréhensible. Parce qu'à l'époque, c'est difficile à dire, mais une femme, c'est soit soumise à son père, soit soumise à son mari, soit religieuse cloîtrée. Et elle comprend que Dieu lui dit qu'elle va être dans une communauté, l'expression est assez particulière, où les sœurs seront allant et venant, c'est-à-dire des sœurs qui vont pouvoir sortir du couvent. Mais ça n'existe pas. Comment ça va être possible? Mais elle reste dans la confiance. Et puis, voilà, on est obligé de passer les étapes, là. Ça va se réaliser. Ce qui est beau aussi dans la vie de Sainte Louise et de Saint Vincent, c'est leur très, très grande collaboration. Pourtant, ils étaient très différents. Tout était différent. Ils ne s'aimaient pas au départ. Mais tous les deux, ils ont fait confiance. Enfin, ils ne s'aimaient pas. Ils ne s'appréciaient pas. Quoi. Ils n'étaient pas le même monde. Et ils ont fait des choses extraordinaires. Et ce qui est beau, et peut-être que c'est une question que nous avons à nous poser, c'est qu'ils ont été au-delà des clichés, au-delà des habitudes. Ils se sont occupés des enfants abandonnés. On dit, c'était les enfants du péché, on n'a pas à s'en occuper, c'est pas, Dieu ne les veut pas. Ils ont lutté contre ça en disant, ce sont les privilégiés de Dieu. L'école, c'était que pour les enfants de riches. On fait l'école aussi aux enfants orphelins, les enfants pauvres. Eux aussi, ils ont le droit à l'éducation. Et ainsi de suite. Vous connaissez pour la plupart la vie de Saint Vincent. Il a toujours lutté contre les injustices. Quand est-ce que Dieu appelle? On le voit avec Moïse, c'est quand le peuple crie. Alors peut-être que pour répondre aux appels de Dieu, il faudrait qu'on se mette à l'écoute du monde. Quels sont les appels? Quels sont les cris du monde? Et peut-être qu'en écoutant les cris du monde, on comprendra comment Dieu nous appelle. Nous sommes en démarche synodale maintenant, dans le diocèse, et nous avons à réfléchir, à cheminer ensemble, quelles sont nos conversions. À quoi Dieu nous appelle-t-il à changer en Église? Et je terminerai par quelques exemples que j'ai déjà vus dans un autre diocèse, qui était aussi en démarche missionnaire synodale. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs équipes d'animation pastorale des paroisses, donc vraiment les chrétiens convaincus, très engagés, et je leur demandais, dites-moi ce qui vous rend heureux dans votre mission en Église, dans votre investissement, dans votre engagement. Et ça a été super, à chaque fois. Je vous donne quelques petits flashs. Surtout à une des réunions, la première c'était ça, elle dit, excusez-moi, je risque de vous choquer. Mais moi, ce qui me rend heureuse, c'est de faire partie de l'équipe des funérailles. Quand même, dans un monde qui n'aime pas la mort, elle est heureuse de faire partie de l'accompagnement des familles en deuil. Elle disait, parce qu'en fin de compte, là, on est dans le vrai avec les gens. Il n'y a pas de façade. On est dans leur vulnérabilité. Et il y a des chemins extraordinaires d'humanité. Et une autre, la voisine, en chérie, moi, c'est le vendredi après-midi que je suis heureuse. Parce que c'est tous les vendredis après-midi que je m'en vais à l'EHPAD. Avec les papis et les mamies. Ceux qu'on laisse de côté, qu'on n'aime pas dans notre société. C'est toujours un moment de bonheur. Ils nous accueillent avec le sourire. Ils sont contents de nous voir arriver. Et un autre, il était aumônier dans une prison. Chaque semaine, quand je vais rencontrer les détenus, je sais pourquoi je suis là. Juste ces petits exemples me donnent de voir que l'Église en France est déjà en conversion. Elle est déjà belle, elle est déjà rayonnante. Mais peut-être que nous ne savons pas suffisamment le voir pour en rendre grâce. En cette journée, pour les vocations où on demande à Dieu d'être plus attentif à ses appels, apprenons à regarder ce qu'il y a déjà de beau autour de nous, dans ce que nous faisons, dans nos implications, et demandons-lui la grâce de savoir lui répondre joyeusement pour le témoigner autour de nous, pour que d'autres disciples prennent la route avec nous.